Donc aujourd'hui, donc on a vu la dernière fois l'Iliade. Je rappelle, on est sur le deuxième intérêt de l'anarchisme pour le monde grec, qui est lié à l'idée d'anarchie, de chaos, etc. Donc la dernière fois, on a parlé de l'Iliade et de la théogonie d'Hésiode. Et donc aujourd'hui, on va attaquer ce qui est le gros morceau du cours. On va attaquer le théâtre, l'invention du théâtre en Grèce. Et donc on y passera au moins deux séances. Donc je rappelle que je vais m'appuyer sur ce que je peux connaître, ce qu'on connaît sur le théâtre grec, mais l'interprétation que je vais mettre en œuvre, ça sera une relecture, une interprétation de la lecture de Nietzsche que Nietzsche fait du théâtre grec. Donc c'est une vision particulière de la réalité grecque. Mais cette idée que c'est une vision particulière, elle participe de ce que j'essaye de montrer, à savoir qu'il n'y a que des visions particulières des uns et des autres. Donc je vais faire un premier en introduction, je vais rappeler rapidement pour ceux qui ne seraient pas au courant, ou qui auraient oublié, ou je ne sais pas comment dire, donc quelques mots sur Nietzsche. Donc je rappelle pour votre fiche technique sur Nietzsche. Donc Nietzsche, il est né en 1844, ce sera rapide, hein. Il est mort en 1900, Donc, et il avait perdu la raison en 1889. Voilà, donc, autre élément à connaître, donc c'est un immense philosophe ou écrivain, enfin comme on voudra. Donc ce qui nous intéresse dans le cours, professionnellement, c'est un philologue. Donc philologue, c'est en gros une discipline très forte en Allemagne, qui est un peu une sorte d'ancêtre de l'anthropologie, de la linguistique, etc. Et donc Nietzsche, il est spécialiste de la Grèce, comme sont beaucoup de philologues, même s'il s'intéresse à toutes les langues orientales et les langues du monde entier. Donc la vie de Nietzsche, elle est très simple, elle est courte surtout, c'est pour ça. Donc pendant 10 ans, il va être professeur, il est nommé professeur de philosophie grecque à l'université de Bâle, donc une université allemande en Suisse, en 1868, donc vous voyez, il a 24 ans, hein, à l'époque, les carrières étaient plus faciles, mais enfin, il y avait moins de candidats. Et donc, il va enseigner jusqu'en 1878, année où il abandonne l'enseignement, pour des raisons de santé, et surtout pour avoir publié un livre, donc qui est le point de départ un peu du cours, un livre qui est paru en 1872, qui va lui faire beaucoup de tort du point de vue professionnel. Et donc ce livre s'appelle « Naissance », c'est un livre pas très gros, « Naissance de la tragédie, enfantée par l'esprit de la musique ». Voilà, quand le livre paraît en 1872, c'est « Naissance de la tragédie, enfantée par l'esprit de la musique ». Et c'est un livre qui va faire scandale dans les milieux philologiques qu'on peut imaginer assez étriqués du point de vue de l'ouverture sur le monde, de la philosophie, etc. Donc ce livre, il sera republié en 1886, donc trois ans avant la folie de Nietzsche, et le sous-titre va changer, donc c'est toujours « Naissance de la tragédie », mais il y a un sous-titre, il a supprimé, c'est en allusion à la musique, l'esprit de la musique, et le sous-titre c'est « Hellénisme et pessimisme », ça, pas d'importance, du moins j'en tiendrai pas compte dans le cours. Donc entre-temps, pourquoi ? C'est qu'entre-temps, Nietzsche a rompu violemment avec Wagner, qui a joué un rôle très important dans dans l'écriture du livre « Naissance de la tragédie » et dans la sortie, mais qui ont tout donné à penser que ça allait arriver comme ça, de la profession de philologue très sérieuse que Nietzsche pratiquait. Donc Nietzsche a été entraîné dans l'aventure wagnérienne, mais assez vite il va se rejeter cette aventure, et donc rompre avec Wagner et changer le titre du livre qui doit beaucoup quand même à la manière dont Nietzsche a perçu Wagner pendant un moment de l'histoire de Wagner avant Bayreuth et tout ça. Donc dans cette première remarque que je voulais faire, ce livre correspond donc à une rupture dans les rôles et les fonctions exercées par Nietzsche comme professeur. Donc on est au cœur de notre sujet, c'est Nietzsche a pris des risques en écrivant ce livre, Il a pris des risques que l'on retrouve dans sa, qu'on peut retrouver dans sa folie ultérieure. Et en prenant des risques, il s'est ouvert. Qu'est-ce que c'est cette prise de risque? C'est de s'ouvrir à ce qui est le plus que les rôles, les fonctions et les professions. Un philologue, comme un prêtre, un instituteur, il doit obéir à des codes, des normes, et ces codes et ces normes sont définis par la profession dans un champ professionnel, dans une société organisée d'une certaine manière. Et donc Nietzsche sort des clous, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et donc tout le monde sort des clous, mais si vous êtes grand magistrat, si vous allez dans des clubs sadomasochistes, vous y allez sans que ça se sache trop, etc. Mais enfin, on va vers une mise en ordre où tout est censé se savoir à l'intérieur des clous. Voilà. Enfin, lui, il est sorti des clous, et donc la vie de Nietzsche à partir de 1878, donc c'était quand même une bonne époque. Donc l'université de Bâle va lui donner une petite pension, et avec cette pension, il va se mettre à voyager de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, jusqu'en 1889, où donc là, il est pris d'un accès de folie définitive, et il survivra jusqu'en 1900, pris en main par sa sœur, une antisémite célèbre, connue. Et donc cette dérive va correspondre à... Donc j'ai essayé de dire en quoi ça correspond au thème du cours, et ça correspond à ce que Nietzsche va montrer dans Naissance de la tragédie, et donc on peut retrouver quelque chose qui est très lié à l'anarchisme, c'est une certaine conception de l'art et de la vie d'artiste, si je puis dire. Et donc cette vision de l'art, vue d'un point de vue libertaire, c'est un peu tout ce qui va se rattacher à l'idée d'artiste maudit. Et que d'un point de vue libertaire, maudit du point de vue du champ artistique et de la société telle qu'elle existe, mais du point de vue libertaire, on dirait que ce sont les artistes, entre autres, mais il y a beaucoup d'autres gens d'une autre manière, ils s'ouvrent à ce que j'ai appelé la première cours, la puissance du dehors. Donc, ils s'ouvrent à la puissance du dehors et ils se tiennent sur un point d'équilibre fragile et instable entre les limites imposé par la société, et donc l'illimité du thème de Luppé de cette année, entre l'ordre et le désordre, entre la raison et la folie. Et donc là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur qu'est-ce que c'est que cette limite, donc je renvoie aux thèses de Foucault les plus connues sur les limites entre la raison et la folie. Donc les types d'artistes qui apparaissent à cette époque-là, je vous les rappelle, vous avez Rimbaud, Van Gogh, Artaud, Nietzsche lui-même, qui sont des personnages, qui sont des moments d'existence qui rendent bien compte de cette vision de l'art, qui est très différente de la vision de l'art du XVIIIe ou d'autres périodes, et qui rentre en phase avec l'anarchisme tel qu'il se constitue à la fin du XIXe. Donc on en avait parlé, mais c'est une vision de l'art qui est très différente de celle-là. J'ai signalé les liens entre Courbet et Proudhon, mais on retrouve, au tournant du XIXe et du XXe siècle, on retrouve ce lien entre un milieu artistique massivement influencé par les idées libertaires. Donc du côté de la peinture, je n'ai pas noté les mots, Pizarro, les pointillistes, comment ils s'appelaient, Tignac. Donc vous avez un grand nombre d'artistes, et plus globalement, qui se réclament directement de l'anarchisme, qui aident le mouvement anarchiste, etc., enfin des dessinateurs, beaucoup de dessinateurs, et le milieu artistique, plus généralement, je pense à la Revue Blanche, pour ceux qui connaissent, moi je connais mal, mais qui connaissent cette période. Donc vous avez, c'est à partir de cette époque-là, vous avez un courant anarchisant très fort dans le milieu artistique. Alors, quel est le point central du livre et c'est ça qu'on va développer aujourd'hui. Nietzsche va mettre en évidence, il va dire que la culture grecque, la tragédie grecque et le théâtre grec naît de l'opposition de deux réalités radicalement opposées, différentes, à savoir l'apollinien Et alors, on va rentrer dans le vocabulaire. L'Apollinien est le Dionysiaque, donc il va se référer à deux divinités, Apollon et Dionysios. Dionysos. Donc, cette opposition entre Apollon et Dionysos, il va l'utiliser, ça rentre directement en phase avec l'idée de limite et d'illimité, qui est donc le thème de cette année. Alors, Apollon et Dionysos, comme vous le savez sans doute, ce sont deux divinités grecques. Alors, du point de vue théorique, comment penser cette utilisation de catégories d'Apollinien? Je vais vous parler de choses un peu compliquées, mais ça ne durera pas. Donc, comment penser ces deux catégories? Qu'est-ce que c'est que l'Apollinien et qu'est-ce que c'est que le Dionysiaque? Je vais compliquer les choses, mais c'est pour arriver à les penser. Donc, je vous ai parlé la dernière fois d'un concept de Deleuze et de Guattari très important, c'est le concept de personnage conceptuel. Donc, il y aurait des personnages conceptuels. C'est-à-dire que, quand on dit il y a la froideur, les notions donnent des états ou sont des définitions. Hein, on dira l'être, le devenir, etc. C'est des mots abstraits. Les personnages conceptuels, l'idée, au sens anarchiste mais au sens plus large, l'idée, elle s'exprime pas forcément par des concepts qui pourraient se définir, mais elle s'exprime par des personnages conceptuels, c'est-à-dire par des figures. Donc j'en ai cité tout à l'heure, Artaud, Van Gogh, Rimbaud, ce sont des gens qui cristallisent dans leur vie une idée. Donc, conceptuel, ça veut dire que ces personnages sont aussi théoriques, disent autant de choses du point de vue de la théorie que le concept d'être ou de devenir. Donc vous avez, je donne des pistes, hein. Donc personnage conceptuel, on va voir pourquoi, on voit bien qu'Apollon c'est quelqu'un, on va voir que c'est quelqu'un qui n'a jamais existé, mais c'est un personnage conceptuel. Donc je vais y revenir. Il y a deux autres manières de penser ce que Nietzsche essaye de dire par Apollinien et Dionysiaque, c'est une notion très pauvre de Max Weber, l'idéal type weberien dont vous avez dû entendre parler. Et donc l'idéal type de Max Weber, on ne comprend pas toujours, ça paraît pas bien très intéressant, mais si on rapporte Max Weber, si on rapproche Max Weber de Nietzsche, on s'aperçoit que la notion d'idéal type a à voir avec ce que j'ai dit sur le personnage conceptuel. Donc, puisqu'on est une université populaire et que le langage ordinaire dit toujours des choses très intéressantes, quand on dit de quelqu'un quel type, on fait du Max Weber. Voilà, ça serait le résumé. Parce qu'on dit, c'est vraiment un type. La notion de type, elle a une certaine richesse même dans le langage ordinaire. Troisième point pour penser l'approche théorique qui permet de saisir comment Nietzsche parle du théâtre grec et de l'invention du théâtre grec, c'est, on a vu personnage conceptuel, on a vu type, la troisième notion, c'est les noms propres. Dans cette conception, les concepts, les réalités, les choses, le rapport entre les mots et les choses renvoient à des noms propres. Donc la notion de nom propre, c'est-à-dire que en fait, dans cette vision, il n'y aurait plus que des noms propres. Les noms communs relèveraient d'une théorie très générale, abstraite, et qui donne à pauvre, finalement, l'abstraction se traduisant par un appauvrissement de l'idée, l'idée incarnée dans un nom propre. Donc on voit bien que les noms propres sont aussi des noms communs, puisque les Daniels, il y en a plein, enfin, vous voyez. Mais ça serait le surnom très particulier quand on dit... Non, c'est dans le milieu, j'ai vu le film là, avec Gabin, le Nantais, non Oui, Razia sur la Schnouf, c'est pas mal. Donc quand on dit Jojo le Balafré, par exemple, tu connais pas Jojo le Balafré de Belleville, enfin ça se précise, c'est très local comme ça, voilà. Donc cette idée des noms propres, je peux vous renvoyer à quelques références, donc de nouveau à Mille Plateaux de Deleuze et Guattari. Et du point de vue philosophique, pour ceux qui veulent vraiment creuser la question, je vous renvoie à un grand théologien philosophe du Moyen-Âge, Guillaume d'Ockham, donc celui-là au nom de la rose. Je fais un résumé pour ceux qui ont suivi d'autres cours. Donc Guillaume d'Ockham, et donc il y a un livre sur le Guillaume d'Ockham, le singulier, c'est un livre qui est paru aux éditions de Minuit il y a quelques années, d'un philosophe qui s'appelle Pierre Alfieri, et c'est une conception philosophique qui justement met en évidence la singularité des choses. Enfin, dernière référence théorique, je ne vous saoule pas trop par l'aspect un peu général, mais je vais venir plus concret après. Donc, je vais signaler un auteur avec lequel je suis en désaccord par ailleurs, ou que j'aime pas beaucoup, enfin disons, voilà, ce serait plutôt ça, mais qui est très à la mode actuellement, qui est donc Badiou. Donc Badiou, vous avez peut-être entendu parler, donc Badiou, qui est Alain Badiou, ancien stalinien, enfin qui doit toujours l'être, Enfin, pour un anarchiste, Badiou, c'est dur à... Voilà, enfin, historiquement, pour des raisons, parce qu'il est vieux aussi, et c'est pour des raisons, c'est difficile. Et donc, mais par contre, dans Badiou, il y a évidemment, comme dans toute chose, des choses passionnantes, et donc il a fait un livre, c'est des espèces d'oraisons funèbres, parce que comme il est, comme beaucoup de gens, il est d'une génération où les gens meurent, forcément, au bout d'un moment. Donc il a l'occasion d'aller à des colloques, et donc il écrit des textes, et donc il a participé, donc il a un dialogue avec, il s'appelle, quelqu'un qui s'appelle Lyotard, Jean-François Lyotard, qui est donc l'inventeur du mot postmoderne, etc. Et Jean-François Lyotard, c'est un ancien, donc il est plus proche de ma famille politique, c'est un ancien de Socialisme aux Barbaries, qui était une grande revue venue du trotskisme, mais qui s'est rapproché, qui a donné Castoriadis, etc. Et donc Lyotard, c'est vraiment l'antipode. D'ailleurs, ils ont dû se traiter de... Ça a dû être très dur entre eux. Oui, Badiou était pro-chinois, enfin, vous voyez. Enfin, bref. Et donc il y a un commentaire de Badiou. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les noms propres, donc Badiou va se référer à ça. Et il va dire des choses passionnantes qui viennent de lui et de sa rencontre avec Lyotard. Parce que les rencontres... Quelqu'un peut changer quand il rencontre quelqu'un d'autre. Et donc, il développe trois propositions. Donc, c'est Badiou, vous voyez, c'est vraiment pas un anarchiste, mais qui, évidemment, sont des positions éminemment anarchistes et passionnantes. Mais j'ai déjà signalé comme Negri et d'autres gens comme ça pouvaient être très proches de l'anarchisme. Marx lui-même, très proche de l'anarchisme, mais sans jamais, hein, c'est un peu comme le Canada Dry, sans alcool. Ouais. Donc, les trois propositions... Je vous les donne parce que ça donne une base théorique et je suis enchanté que ce soit Badiou qui les fournisse. Donc, première base théorique, je cite Badiou. Tout d'abord, oui, alors je vous donne la référence du livre, ça s'appelle Petit Panthéon Portatif, c'est paru à La Fabrique en 2008. Petit Panthéon Portatif. Première proposition de Badiou, tout d'abord, il y a le multiple. L'être est essentiellement pluriel, page 92. Donc voilà, ça c'est une prise de position spécifiquement libertaire, et évidemment on retrouve Hésiode, tel qu'on l'a interprété, Hésiode et l'anarchie. Tout d'abord, il y a le chaos, l'anarchie, l'absence de principe premier, donc il y a le multiple. Deuxième proposition de Badiou qui me semble très intéressante, seconde proposition, il y a des singularités. Donc, ce qui va ensemble, évidemment. S'il n'y a que des singularités, on est dans le multiple. Toute chose est singulière, et donc toute chose mérite un nom propre. Donc vous, moi, mais le micro, il est singulier. Il n'y a pas une seule individuation ou un seul être qui est pareil qu'un autre. Donc on retrouve ici, j'essaye de réunir des choses qu'on a déjà vues, un autre auteur très important sur un point que je ne développerai pas plus, mais dont j'ai cité des fois le nom, c'est Walter Benjamin. Donc Walter Benjamin, en particulier son dernier grand texte qui s'appelle Le concept d'histoire, donc qui est le dernier texte qu'il a écrit avant de suicider en essayant de passer en Espagne. Et donc la formule de Walter Benjamin, je vous la rappelle, l'exception est la règle. L'exception est la règle. Donc on pourrait reformuler cette formule de Benjamin en disant « Dans le réel, il n'y a que des exceptions. Donc je signale que cette prise de position, il n'y a que des exceptions, elle vient détruire, enfin elle prétend détruire, elle ne le détruit pas, mais le présupposé fondamental de la science, c'est la formule « toute chose égale par ailleurs ». C'est-à-dire, c'est la capacité de neutraliser un certain nombre de choses pour pouvoir montrer, affirmer des lois générales. Eh bien, la position de Benjamin, donc, détruit la position scientifique, puisque rien n'est égal par ailleurs. Il n'y a que des exceptions. Pour ceux qui voudraient creuser cette question, je renvoie à Michel Serre, les travaux de Michel Serre sur, j'ai pas les références ici, mais ça s'est développé. Donc, dans ce deuxième proposition, qu'est-ce qu'on dirait ? La science n'est qu'un point de vue singulier parmi d'autres points de vue singuliers. Troisième proposition, anarchiste de Badiou, alors qui est plus obscure, mais qui est vraiment importante et qu'on verra donc à la fin du cours. Je cite toujours Badiou, l'imposition d'une règle, donc on est toujours page 90, 91, 92, l'imposition d'une règle n'est qu'une surface de capture. Bon, l'idée à retenir, c'est que partout où il y a règle, définition, il y a capture, ou il y a risque de capture. On verra que c'est plus compliqué sans doute. Donc vous notez bien cette idée de capture, qu'on retrouve de nouveau dans Deleuze, dans la notion d'appareil de capture. C'est la capacité d'épingler quelqu'un. La capture, ça va d'être épinglé au fait qu'on est prisonnier des formes. La capture, on est dans la polynéale dionysiaque déjà là. La capture, c'est vraiment, ça arrive plus maintenant, tout le monde est tellement laminé, mais du temps où il y avait encore de la résistance, dans un atelier, il y a des gens qui subissent une injustice très forte, ils disent « ça ne peut pas durer comme ça », et ils disent « faut faire quelque chose, quoi faire ?» D'ailleurs, ils ont plein de moyens, à casser les outils, sortir dans la rue, mais ils disent « on va envoyer un délégué ». Donc ils choisissent un délégué, donc c'est le plus véhément qui dit « je pense à un groupe qui n'a pas déjà été capturé trop ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc le délégué, il arrive, il dit « j'y vais ». Donc il traverse la cour et tout, puis il arrive dans les bureaux, il commence à monter dans les bureaux, et les forces réelles qu'il constituait ont tendance à s'affaiblir, c'est de la moquette, et il marche comme ça et tout. Et il arrive dans le bureau, il est toujours un peu en colère, et il tombe sur le chef du personnel qui lui dit « Alors François, mais qu'est-ce qui se passe ?»« Non, ça ne va pas durer longtemps. » Alors généralement, s'il allait jusqu'au bout, il dirait, si on est dans la position de ce que j'essaye de vous montrer, il dirait « il n'y a plus de François ». Voilà, hein, on verra ça, parce que François, c'est déjà être épinglé. Hein. François, le bon François. Je ne parle pas de Jojo le balafré, mais vous voyez, il y a une ambiguïté. On va voir que l'ambiguïté entre Apollon et Dionysien, c'est bien ça. Hein. Donc là, il ne va pas dire il n'y a pas de François, il va être déjà épinglé par le mot François. Ah, François. Et après, ça va être mais asseyez-vous. Alors là, il est foutu, s'il s'assoit. Et si après, il dit mangez un petit, vous boirez bien quelque chose. Et après, on se met à négocier, on discute. Et c'est ça l'appareil de capture. L'appareil de capture, c'est d'être capable de rattraper des débordements et de les réajuster à un ordre donné. Et donc le grand problème que j'ai posé, c'est ce décalage entre un ordre qui est forcément fini et l'infinité des possibles. Donc le problème de l'ordre fini, c'est qu'il impose une violence, je ne sais pas comment on pourrait dire, naturelle, par le fait même qu'il est fini et qu'il s'impose à un monde infini. Simplement, le truc difficile à comprendre, c'est que l'ordre fini, en imposant cette violence à l'infini, produit sa propre violence interne qui relèverait de quelque chose, qui relèverait de la perversion. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous élevez des, je sais pas quoi, des bêtes dans un enclos, il y a des rats partout, des bêtes, je sais pas quoi, vous les tuez, parce que le monde fini de votre enclos ne vous oblige à lutter contre les rats. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous éprouvez un plaisir particulier à tuer les rats, et après ça développe une manière d'être avec les petites bêtes que vous vouliez garder sur les rats, et puis surtout votre femme, vos enfants. Et... Non, mais là, j'exagère. Non, j'exagère dans les raccourcis. Donc, on aborde maintenant un point. Donc, ces personnages conceptuels, qui sont-ils ? Et donc, je vais vous donner quelques informations, c'est toujours intéressant, sur Apollon et Dionysos. Donc, ces deux personnages conceptuels, on va voir, c'est des êtres imaginaires, mais enfin qui ont existé. Donc, quelques informations pour votre fiche technique. Apollon, disons-le tout de suite, il y a une inégalité. Apollon, c'est un grand dieu. Il est beau, il est brillant, lumineux, éclatant. Vous voyez, à l'université, c'est celui qui est né avec une cuillère dans la bouche. Donc on peut dire. C'est le premier de la classe. Le premier de la classe, voilà. Apollon, c'est le premier de la classe. Enfin, il aura des problèmes avec son père, mais ça, c'est normal. Bon. Donc, c'est un des 12. Vous avez dans la... Je rappelle ce qu'on avait vu. Les dieux grecs, ils sont une multitude. Hein, une divinité grecque. Lui, il fait partie des 12 dieux de l'Olympe. Donc, c'est les grands dieux. Donc, il séjourne dans l'Olympe avec Zeus, le chef des dieux, et donc, où il boit du vin, il mange, etc. Autre pédigré d'Apollon qui est très bon, c'est le fils de Zeus. Mais enfin, Zeus, il fait des enfants partout, donc c'est difficile d'échapper à ce père-là. Bon. Donc, il est le fils de Zeus, le chef des dieux, mais il est le fils... Alors, donc, Zeus, c'est pas une preuve... Mais la mère, c'est important, on va pouvoir à quel degré ça s'est situé. Donc sa mère s'appelle Latone, et elle est la fille de la lune, Phébé. Donc on voit déjà des dieux qui sont des êtres humains, et d'autres qui sont des choses de la nature. Et donc Latone, elle est la fille de la lune et d'un titan. Hein. Les titans, c'est important, je rappelle ce qu'on a vu la dernière fois avec Hésiode. Les titans, les cyclopes, et beaucoup d'autres dieux tout aussi bizarres, ce sont les nombreux fils de Gaïa, vous vous souvenez le plancher de la dernière fois, la terre, et d'Ouranos, le ciel. Hein. Donc les titans, je vous rappelle des choses, donc c'est les dieux, ils s'adossent à un fond chaotique très important, très proche. Hein. Donc, les titans, ils sont liés à l'origine chaotique du monde. Or, Apollon, c'est l'arrière-petit-fils de Gaïa. Hein, vous voyez, ça remonte dans la famille pas loin, même s'ils vivent très longtemps comme les patriarches de la Bible. N'empêche que c'est quand même, si les vies sont plus longues. Donc Gaïa, c'est la grand-mère d'Apollon. Notez bien ça, Gaïa, c'est la grand-mère d'Apollon, par sa mère, mais il est également c'est également sa grand-mère par son père, Zeus. Puisque Zeus est aussi le fils d'un titan, et donc c'est aussi le petit-fils de Gaïa. Donc je rappelle pour mémoire que Zeus est le fils de Cronos, donc le fils de Gaïa et d'Ouranos, et Cronos qui avait entrepris de manger ses enfants au fur et à mesure qu'ils naissaient. Ben, c'est toujours inquiétant de... Et donc, finalement, ces enfants sont révoltés, ils ont mutilé Cronos, ils l'ont détrôné. Et donc, il a été chassé, et c'est Zeus qui va devenir le chef des dieux après. Donc, qu'est-ce qu'on peut résumer ? C'est que Apollon, il est de noble extraction, dans l'imaginaire des Grecs. Dernière caractéristique, Apollon, c'est le dieu de la lumière, de la beauté, des arts. Mais voilà, c'est là où on touche le thème du cours, c'est le dieu, pour les philologues, c'est le dieu de la limite. Voilà. Donc on peut noter ça, c'est que Apollon, c'est le dieu de la limite, de la loi et de la mesure. Vous pouvez noter ces trois points, limite, loi, mesure. Mais c'est également le dieu de la forme c'est le dieu du visible. Apollon, c'est le dieu de ce qu'on voit. Mais on pourrait ajouter une dernière idée. Apollon, c'est celui qui rend les choses présentables. On pourrait noter ça là, en revenant vers le langage ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire rendre les choses présentables? Souvent dans la vie, on est confronté à ce problème. Les choses, souvent, elles ne sont pas présentables. Alors ça va d'un corps, d'un accident de voiture, enfin je ne veux pas prendre des exemples horribles, mais comment rendre les choses présentables? Ou quand vous allez annoncer à quelqu'un que vous le quittez, ou j'en sais rien, cette idée de présentation. Qu'est-ce qui rend les choses présentables? Dernière idée que l'on peut joindre à la figure d'Apollon, c'est l'idée de propriété. Apollon, c'est le dieu de la propriété. On verra que l'autre dieu, Dionysios, par contre, c'est l'inverse. Le dieu de la propriété, c'est que chaque chose doit être à sa place, en son lieu, avec ses propres prérogatives, ses droits, ses devoirs. Donc propriété, c'est aussi ses facultés. La notion de faculté, elle est très intéressante. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc il faut que les choses soient séparées les unes des autres, avec des prérogatives et des propriétés particulières. Dernière idée sur Apollon, importante, c'est que Apollon, ça va être le dieu, c'est un point qu'on a déjà abordé, c'est un dieu qui sépare l'être humain de la nature. Donc Apollon, il sépare l'être humain de la nature et il va constituer l'humanité en domaine propre, en domaine ordonné, un jardin à la française, enfin voilà, comment on pourrait dire. Le point important qu'on a déjà vu avec la démocratie, par humain, il faut évidemment entendre les hommes, hein, comme le mot l'indique. L'opération, elle est difficile, cette opération de séparation, de fixer de l'ordre, hein, c'est mettre de l'ordre, ça c'est Apollon. L'opération, elle est difficile et elle est sans cesse à répéter pour les très jeunes enfants, puisque les très jeunes enfants... Donc l'humanité, elle refait sans arrêt cette expérience de séparation de la nature. Donc, cette opération, eh bien, elle opère au moment de l'âge de raison. L'âge de raison, à 7 ans, c'est les Grecs qui ont inventé l'âge de raison, et le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. L'âge de raison, à 7 ans, les enfants grecs quittaient le monde des femmes, et ils vont à l'école. À 7 ans, on met les enfants à l'école. Donc, ce qui est difficile pour les enfants, je rappelle, par rapport à la civilisation grecque, on y arrive quand même, au moins pour la moitié d'entre eux. Hein. Mais c'est très difficile pour les femmes. Donc, dans le monde grec, les femmes, avec leurs règles, le fait qu'elles enfantent, leur cerveau gauche plus actif... Les femmes sont certes des êtres humains, mais elles restent étroitement liées à la nature. Et de ce point de vue, elles constituent une menace permanente de la nature au sein des hommes eux-mêmes. Ne serait-ce, dont j'essaye de développer ça, ne serait-ce qu'en ranimant sans cesse les monstres, les dieux, la nature qui les désire, qui dorment en eux. Donc c'est pourquoi en Grèce, comme dans la plupart des pays de la région, on demande fermement aux femmes de ne pas se montrer, donc en portant des voiles par exemple, ou le mieux étant qu'elles restent chez elles et qu'on ne les voit pas du tout. Donc ce qui est intéressant, c'est que la division apollinienne entre l'homme et la nature opère entre l'homme et la nature, mais elle opère aussi au sein de la société elle-même. Et elle opère à l'intérieur de chaque individu. Voilà, il y a tout un développement qui va naître de ça. C'est que dans la société, c'est comment faire la part des choses. Donc, vous voyez bien qu'on retrouve des tas de divisions qui vont apparaître, qui sont apolliniennes. La scène publique, la scène privée. On voit bien que les femmes sont du côté de la scène privée. Donc là, il y a des gros enjeux philosophiques, politiques et autres. Donc la société, elle va faire la part, les coulisses, la scène... Enfin, il y a toutes les catégories qui permettent de penser cette coupure entre l'homme et la nature qui opère à l'intérieur de la société où on fait la part du feu. Les femmes, c'est la part du feu. Il faudra bien que les femmes, sans arrêt, il faut remettre en chantier le fait que les enfants naissent. Donc on verra si quand on arrivera à fabriquer des enfants autrement. Donc cette séparation, si on commence à anticiper sur le théâtre, avec le monde grec, l'homme il va se détacher de la nature elle devient un fond. Alors ce fond, il se rappelle à nous sans arrêt, donc c'est là où c'est compliqué, hein, puisque les passions humaines, même l'être humain, l'homme le plus raisonnable, les passions continuent de l'animer. D'où une dernière, avec ce détachement du fond, une dernière caractéristique d'Apollon, c'est qu'Apollon, il va être le garant de la connaissance et de la logique. Donc la science va aussi se rattacher à Apollon, dans la mesure où connaître, c'est distinguer. On l'a vu la dernière fois à propos de la distinction avec Bourdieu. Connaître, c'est distinguer, et distinguer que ceci n'est pas cela. Hein, on retrouve la démarche d'Apollon, c'est de mettre de l'ordre, c'est ceci n'est pas cela. C'est serrer les choses et ne pas tout mélanger et ne pas tout confondre. Connaître, c'est assigner une identité et une place aux choses avec chacune son nom. Donc on ne peut pas être plusieurs choses en même temps, dans le même lieu et dans le même espace. Donc, en résumé, Apollon, c'est le dieu de la mesure des choses, au double sens du mot mesure. C'est-à-dire, c'est mesurer les choses et être soi-même mesuré par l'ordre dans lequel on est et par la subjectivation qui consiste à faire sien la mesure. Donc, il faut chacun à sa place, c'est être capable de bien savoir de l'intérieur, subjectivement, à quoi on est autorisé. On reviendra sur Apollon si vous voulez. Je continue sur le deuxième type, ça va, non? Le deuxième type, le dionysiaque, donc Dionysos, c'est un peu l'inverse d'Apollon. Donc on retrouve une dimension de classe dans cette distinction apollinien et dionysiaque. Donc Dionysos, c'est également, mais ça n'a rien d'original, c'est un bâtard de Zeus, mais on s'y attendait, mais alors de basse extraction du côté maternel. Enfin, sa mère c'était une reine quand même, mais c'est une humaine. Donc c'est déjà dans les représentations grecques, c'est une métisse, on pourrait dire ça comme ça. Alors Zeus est pris, il a des passions très fortes, donc il l'amène dans l'Olympe. Et du coup, il va y avoir une série de catastrophes qui font que, j'ai sauté une partie. Dionysos, c'est pas un Olympien, il va naître ailleurs, pour la bonne raison que ça se passe mal, parce que Zeus essaye de faire rentrer une humaine dans le monde des dieux. Elle n'est pas très bien vue, et surtout la femme de Zeus est très mécontente. Héra, l'épouse légitime, et donc je passe sur les péripéties, je reviendrai sur le fait qu'il y a plein de récits différents. Hein, bon. Donc Héra provoque l'incendie du palais où résidait Sémélée. Elle était sur le point d'accoucher en plus, donc c'était vraiment inquiétant pour... Elle était habituée, mais pas comme ça publiquement. Et donc Sémélée est tuée dans l'incendie, et donc il y a des problèmes à la naissance, d'où le fait que Dionysos est présenté comme boiteux. Il est laid, il est difforme, on verra pour des tas de raisons, mais il a subi des traumatismes qu'Apollon n'a pas connus de la même manière. Et donc, Sémélée meurt dans les flammes, et ce sont des nymphes. Alors, les nymphes jouent un très grand rôle pour faire des enfants à Zeus, mais aussi pour... Donc, les nymphes des forêts, donc très près de la nature, les nymphes des forêts, qui récupèrent le bébé, qui arrivent à faire naître le bébé, donc là, je passe sur les détails, et qui se chargent de l'élever. Donc, Dionysos, il va être élevé loin de l'Olympe, il va être élevé loin de la Grèce, ça c'est très important. Donc il est élevé dans des pays étranges, donc dans les récits, soit c'est les Indes, soit c'est l'Arabie, on ne sait pas bien, mais enfin en dehors de la Grèce, et il est pris en charge par une famille d'accueil, mais là, c'est pareil, il tombe pas très bien, donc c'est la famille de Silène. Alors quelques mots sur Silène. son père nourricier, il n'est guère plus recommandable, enfin, il n'est pas très recommandable, il faut le dire carrément. Donc c'est aussi un demi-dieu. J'ai pas fait sa généalogie. Si, je vous en dirai quelques mots. Alors, et, bon, les Grecs le représentent. Alors, les représentations, c'est un espèce de vieillard chauve au regard malin, mais replé. Il possède des oreilles de porc. Il est le plus souvent entre deux vins et il voyage sur un âne. Voilà. Enfin, on pourrait rajouter d'autres caractéristiques. Donc, Dionysos, il a une lourde hérédité adoptive, culturelle et effective. Silène, alors je vais quand même parler un peu de la famille de Silène. Donc le père de Silène, il s'appelle Pan, P-A-N, le dieu Pan, qui est aussi un dieu de la campagne. Alors le dieu Pan, c'est le fils d'Hermès, mais enfin je ne rentre pas dans les détails, c'est un Olympien. Donc le Pan, il descend quand même des Olympiens par Zeus ou autre, qui est né d'une. Mais la mère c'était une nymphe. Voilà. Et alors la caractéristique de Pan, c'est qu'il est tellement laid que sa mère effrayée l'abandonne. Mais son père, Hermès, qui en a vu d'autres, trouve ça rigolo. Et il dit, je vais le montrer aux dieux. Donc il l'emporte dans une couverture et il le montre aux autres dieux de l'Olympe. Et pourquoi ils vont l'appeler Pan? Ça veut dire tout en grec, hein. Il l'appelle Pan parce qu'il les a tous fait rire pour la première fois, parce qu'ils se disputent tellement dans l'Olympe que ça rigolait pas. Pour le moment, ils sont unanimes pour rigoler à gorge déployée devant la laideur d'un personnage aussi laid. Ce qui fait que Silène, évidemment, est laid, mais il a hérité de son père. Donc, la raison, et là on touche le fond des choses, c'est que Pan, il tient à la fois de l'humain et de l'animal. Voilà. Donc, c'est ça la grande ambiguïté dans ces personnages grecs. Alors, il est velu, il a les pieds et les cornes d'un bouc, donc il a des cornes et il a les pieds de bouc. Et donc, Pan et Silène, cette famille d'accueil de Dionysos, sont les pères, ils ont donné naissance à une multitude d'autres divinités de la nature, cornues et toutes plus velues les unes que les autres, mais qui ont une caractéristique alors très importante, c'est que c'est des divinités d'humeur joyeuse et bruyante, donc qui font la fête, etc. Donc Silène élève Dionysos, et une fois grand, Dionysos va parcourir, voilà, c'est aussi un voyageur, Dionysos, donc il parcourt les Indes, l'Égypte, et enfin il revient en Grèce, donc le pays de son natal, mais il est à la tête d'une troupe d'hommes, il y a un côté théâtre ambulant, je ne sais pas comment on pourrait dire, donc d'hommes et de femmes mélangés, alors ça c'est très important, les hommes et les femmes mélangés autour de Dionysos, là, forcément, puisque les hommes sont près de la nature, donc les femmes se mettent à jouer un rôle. Il faudrait insister là-dessus, on retrouve ça, on l'a vu l'année dernière dans le taoïsme chinois, très net, mélanger les souffles dans le taoïsme chinois, le critère homme, les rapports hommes-femmes sont un indicateur, d'un point de vue anarchiste, un indicateur qui ne trompe pas sur ce qui est possible et en jeu dans une société donnée. Donc là, on retrouve des traits qu'on a vus déjà avec... Donc les hommes et les femmes sont mélangés. Silène, il est sur son âne. Dionysos, tout le monde joue... Alors c'est des mi-hommes, mi-animaux, et tout le monde joue de la musique. Bois fait la fête, en fait. Dionysos, c'est le dieu de la fête. Avec des tambours, etc. Donc Dionysos, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai essayé d'être plus rapide. Dionysos, c'est le dieu du vin, du désordre et de la transgression des limites. Voilà, c'est ça le... C'est le dieu de la démesure, Dionysos. C'est le dieu de la démesure. Enfin, une démesure très particulière. C'est pas l'hubris grec, il y a d'autres formes de démesure, mais c'est aussi de la démesure. Autre caractéristique du Dionysos, il abolit la subjectivité individuelle. Il abolit la subjectivité individuelle et fait retour au chaos de la vie et de la nature. Hein? Nietzsche parlera d'extase délicieuse. Donc l'expérience dionysiaque, c'est perdre sa subjectivité, étant entendu que cette subjectivité, c'est celle de la surface de capture. C'est là où on est épinglé, vous êtes policier... Et là, vous mettez le policier qui se met à rire à une plaisanterie des gens qui sont dans la voiture, c'est Dionysos qui survient, hein, parce que le rire dans le coin, c'est le début. Ses collègues le regardent, c'est pas le moment de rire, voilà. Donc le rôle, la subjectivité, c'est être fidèle au rôle que l'on vous a demandé. Dès que vous sortez des clous, vous courez des risques. Donc je cite Nietzsche de nouveau. Avec Dionysos, on assiste, et ça à un retour au fond. Alors la formule de Nietzsche est la suivante: au fond intime de l'homme et de la nature. Donc on retrouve cette idée que j'ai essayé de dire, que l'individu est plus que lui-même, et c'est qu'au fond de nous, il y a une intimité où l'homme touche la nature, mais c'est explosif et dangereux. Donc on assiste à une réconciliation de l'homme et de la nature, séparés par Apollon. La subjectivité, autre chose qu'on peut dire, la subjectivité ne disparaît pas, mais elle prend des dimensions nouvelles, elle devient collective et changeante. C'est-à-dire que la subjectivité, on va passer par des états d'âme, elle relèvera d'états d'âme, la joie, la tristesse, on passe par des transformations. Donc le modèle actuel, les raves, voilà, dont j'ai essayé de trouver des exemples, ou les carnavals, mais on en reparlera. Alors deux petites remarques. Première remarque qu'on peut faire, c'est que le dionysiaque pour Dionysos, c'est à la fois je reviens à ce que j'avais dit, le dehors, dehors et le dehors, dedans. Dionysos, c'est à la fois les barbares, c'est le dehors, dehors, donc que symbolisent bien tous ces voyages, et Dionysos, c'est le dehors, dedans, c'est ce plus que soi-même que l'on porte et qui demande à se manifester. Donc c'était la première remarque que je voulais donner. Deuxième remarque, alors qui est la plus importante, mais que l'on retrouvera par la suite, c'est que ce fond que je viens de décrire, c'est un fond infini de récits possibles. Donc voilà ce qui est intéressant, on retrouve ce qu'on avait vu l'année dernière, le ciel grec, c'est un espèce d'immense cinéma en cinémascope, où se projettent des figures qui autorisent une multitude de récits possibles. Donc je vous donne pas les références pour gagner du temps, mais donc il y a d'autres versions que celles que je viens de vous donner. Hein. C'est les versions canoniques qu'on apprend à l'école, mais il y en a d'autres. Donc je rappelle une autre version possible des récits, c'est la manière dont les êtres humains projettent, conceptualisent par des personnages conceptuels et des histoires, leur propre vie, la manière dont ils perçoivent le monde. Donc dans une autre, mais il y a un point important que ça permet de saisir, dans d'autres récits, je vous rappelle que Dionysos, il est fils de Titan, il y a un autre récit beaucoup plus terrible, et donc à la mort de sa mère, il est lié aux familles de Titan, il est recueilli par les Titans, qui sont très inquiétants, les Titans, les Cyclopes aussi, mais avec leur œil, mais les Titans aussi. Donc il est accueilli par ses oncles, et tout se passe bien, les oncles lui donnent des jouets, des cadeaux, et puis brusquement, au fur et à mesure que les jours passent, ils sont de plus en plus attirés par la chair fraîche de Dionysos, et ils commencent à envisager sérieusement de le dévorer, ils le dévorent, ils le coupent en morceaux pour le dévorer, et donc voilà, ça c'est un autre récit très différent, et qui va venir sauver Dionysos? C'est Apollon. Et là, c'est un récit très intéressant parce que Apollon, le dieu des formes et de l'individuation, il va sauver Dionysos. Donc vous voyez, vous avez un autre récit où Apollon joue un rôle clé et il va recomposer le corps de Dionysos dans un rapport où c'est l'ordre qui vient sauver le désordre de son propre anéantissement. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. L'ordre apollinien vient... D'où, vous fatiguez, donc peut-être, non, je continue. Bon, alors, je continue. Non, mais j'ai l'impression d'abuser de votre... C'est exorbitant de parler aux autres. Donc, un point peut-être important à noter, c'est, ce que j'aurais peut-être pas le temps de développer, c'est que pour Nietzsche, Apollon et Dionysos vont toujours ensemble. Voilà, c'est un point très important à noter. pour Nietzsche, Apollon et Dionysos vont toujours ensemble, et ça, on va réfléchir un peu sur la manière dont, du point de vue anarchiste, on peut penser ça. Et donc, dans les mythes grecs vérifient cette pensée de Nietzsche en montrant comment Dionysos contient Apollon et Apollon contient Dionysos. Donc, je viens de voir. Donc, il y a une ambiguïté des personnages de ces personnages conceptuels. Ambiguïté au sens qu'ils sont doubles sur ce plan de séparation hein, entre le dionysiaque et l'apollinien. Ça veut dire que toute chose est toujours, elle porte son contraire en elle-même. Enfin, elle porte ses contraires, enfin disons que c'est le chaos, mais dès que ça s'organise un peu, une chose, elle porte son contraire en elle-même. Ça, c'est une idée très importante. Donc, on vient de le voir sur Dionysos, mais si on prend Apollon, Apollon, il est très ambigu aussi. Hein. L'ordre est très ambigu, donc c'est ça qui est un peu difficile à saisir, mais on peut commencer de le voir. Donc, je vais donner des exemples dans ces personnages du côté des récits. Apollon, il a des flèches, hein, il a tué des différents personnages, etc. Mais il a des flèches empoisonnées, voilà. Donc, Apollon, il a des flèches empoisonnées et il est du côté de la médecine. Donc, Apollon, ses flèches, elles sont empoisonnées et elles portent à la fois la maladie et à la fois le remède. C'est-à-dire que les flèches d'Apollon... Donc, Esculape, est... enfin, je rappelle pour ceux qui ont fait de la médecine, Esculape, c'est un fils d'Apollon, ou je ne sais plus, ou un cousin proche, enfin bref. Autre caractéristique ambiguë d'Apollon, donc la médecine, il joue de la musique, Apollon. Donc Apollon, il n'est pas aussi mesuré qu'on pourrait le dire, parce que dès que vous jouez pour Nietzsche et pour les Grecs, jouer de la musique, ça a un côté diabolique, hein, la musique. C'est pas un hasard si les intégristes religieux, ils interdisent la musique. Hein, le vin, la musique, dionysiaque, la musique est dangereuse parce que c'est la thèse de Nietzsche hein, dans ce livre. Je passe sur les détails, qu'il a des histoires d'amour, il aime les garçons, Apollon, donc c'est quand même pas non plus, même si les Grecs ont mis ça en forme, essayent de mettre de l'ordre dans tout ça, ça reste quand même une source de désordre presque autant que la musique. Donc, ce qu'on pourrait dire sur ce point, c'est qu'en fait, chacun révèle l'inverse de l'autre. Donc là, je voudrais vous donner trois petites idées, peut-être. J'exagère un peu, mais tant pis. Donc, l'enjeu du dionysiaque et de l'apollinien porte sur le rapport difficile entre l'infini et le fini, la limite et l'illimité. Non, excusez-moi, je crois que je perds la tête, là. Je continue, ça fait rien. Je crois que c'était pas au bon endroit, mais ça fait rien. Et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Le fini mutile, à la fois mutile et exprime l'infini. Voilà, c'est ça qu'il faudrait arriver à comprendre. Non, là, je me suis lancé dans un truc... Je conclue sur cette... Donc, pour Nietzsche, ces deux figures, ces deux personnages conceptuels disent quelque chose de déterminant sur l'origine de l'être. Voilà, c'est ce que la position de Nietzsche, c'est que ces deux figures disent quelque chose de déterminant sur l'origine de l'être, l'origine du monde, tel que peut le raconter Hésiode et beaucoup d'autres, mais aussi sur l'origine de chaque chose. C'est-à-dire que Nietzsche pense... que ces deux figures conceptuelles disent quelque chose d'essentiel sur l'origine de chaque chose, de chaque événement, aujourd'hui, en ce moment, à tout instant, et de multiples manières. Donc cette origine, pour Nietzsche, elle est une et double. Elle a deux dimensions. L'origine des choses relève à la fois de Dionysos et d'Apollon. Elle relève de la forme et du chaos, de la mesure et de la démesure, du fini et de l'infini. Donc dans la position de Nietzsche, Apollon et Dionysos ne peuvent pas être séparés. On ne peut pas séparer les deux. L'un et l'autre vont ensemble. Il y a toujours de la forme et de l'informe, du fini et de l'infini, de la limite et de l'illimité. Donc je rappelle que la position, donc là ça rejoindrait la position anarchiste, le chaos originaire, ce n'est pas l'absence de forme, mais c'est l'excès de forme, il y a trop de forme. À l'inverse, les formes qui donnent sens à notre vie, qui font notre vie, donc à travers le nom, le rôle, la fonction, l'assignation professionnelle, etc., confessionnelle, sexuelle, ne sont pas le tout de notre être, de ce que nous sommes, et donc elles nous coupent de ce que nous pouvons et imposent donc une mutilation à la réalité qui nous constitue. Voilà, donc je crois que je vais arrêter là. On pourra discuter ce matin.